VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Et midi à Conakry, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Crise burundaise, l'Union panafricaine des avocats UPA et le Forum des organisations de la société civile est-africaine ont saisi la Cour de justice d'Afrique de l'Est pour lui demander de statuer sur la légalité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle du Burundi qui a déclaré le 5 mai que le président burundais Pierre Nkurunziza pouvait briguer un troisième mandat. Au micro de Camille Gros-Didier, Maître Dieudonné Bachira Ishize, vice-président de l'Organisation des barreaux d'Afrique de l'Est, explique les raisons de ce pourvoi en justice.
Les conséquences de la crise burundaise affectent finalement toute la région. Il y a des réfugiés qui sont en train de se diriger dans les pays de l'East African Community. Il y a un risque de confrontation armée qui commence à se faire sentir. Et chaque État, en principe, qui entre dans une famille ou qui entre dans une communauté, s'engage à respecter scrupuleusement le traité. Or, le traité établissant la communauté est-africaine stipule notamment que l'État parti doit respecter les droits fondamentaux, c'est-à-dire le respect du principe de la légalité, la bonne gouvernance et les principes démocratiques, notamment même l'alternance démocratique. Les accords d'Arusha étaient clairs que la troisième candidature n'est pas possible.
Maître Dieudonné Bachira Ishize, vice-président de l'East African Law Society, joint en Tanzanie par Camille Gros-Didier. En RDC, situation critique sur plusieurs sites d'exploitation minière artisanale au Katanga. De nombreux mineurs qui se plaignent de tracasseries répétées ont désormais recours au creusage clandestin sur les sites à exploitation industrielle. Un choix qui leur coûte parfois la vie, nous dit notre correspondant à Lubumbashi, Nanval Mabila.
Depuis l'avènement du boom minier au Katanga, les creuseurs venus du quatre coins du pays ont envahi plusieurs sites d'exploitation industrielle et artisanale à la recherche de minerais riches. Les creuseurs ont été plusieurs fois délocalisés sur certains sites miniers appartenant à la GKMIN et par la suite relocalisés par le gouvernement sur d'autres sites attribués à l'exploitation artisanale avec objectif la création des coopératives et structures d'encadrement afin d'étendre vers la petite mine pour créer une classe moyenne congolaise. Malgré les bonnes théories du gouvernement, la réalité du terrain et tout autre en ce qui concerne la situation de Creuseur, où c'est le plus fort, tant militaire que civil, prétendant d'être proche de certaines autorités qui définissent la loi à leur manière. C'est le cas à Lupoto, comme nous dit un Creuseur qui garde l'anonymat de peur des représailles.
La situation de nous Creuseurs à Lupoto est vraiment compliquée du fait que depuis l'entrée de M. Djuma, on est en train de nous couper 30% de nos produits pour donner à M. Djuma et 15% pour la maison des Indiens chinois. Alors on ne se retrouve pas. On a déjà dit non au service de l'État. La CESCAM, qui devait au moins encadrer les creuseurs et les coopératives, n'a pas l'accès dans le site.
C'est la peur et la terreur qui a influencé plusieurs creuseurs à se réfugier sur d'autres sites à exploitation industrielle où ils pénètrent dans la clandestinité. Le creusage de minerais est une activité importante car plus de 25 millions de Congolais vivent de ça. Mais l'application du règlement minier connaît un sérieux problème. Maître Timothée Mbouya, défenseur des droits de l'homme, nous en parle.
Malheureusement, depuis la publication du code minier et du règlement minier, on se rend compte que les creuseurs sont délaissés pour compte, ils sont abandonnés par le gouvernement. Il faut aussi dire que les creuseurs aujourd'hui sont en difficulté parce que le gouvernement ne sait pas définir des sites bien appropriés à l'exploitation minière artisanale. Et cela engendre des conséquences graves. On les tire parfois à bout portant.
À ce jour, plusieurs creuseurs et négociants attendent les paiements de leurs factures de minerais livrées à la Générale des carrières et des mines depuis 2006, bloqués par l'actuel comité d'administration à cause du détournement interne. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, ne s'est toujours pas prononcé sur le maintien au nom du Premier ministre Yacouba Isaac Zida à la tête du gouvernement. L'armée burkinabé, en particulier le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, dont le lieutenant-colonel Zida a été le commandant adjoint, exige sa démission depuis la semaine dernière. Mais le Premier ministre refuse de jeter l'éponge. Que disent les formations politiques signataires de la charte de la transition de cette impasse? Bagassi Koura adjoint Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement.
Si les forces de défense et de sécurité de notre pays, c'est-à-dire l'armée nationale, décident de se retirer de l'organe exécutif, nous, Nous demanderons donc au président du FASO, président de la transition, d'appliquer la charte qui lui donne donc la prérogative de nommer le premier ministre et le gouvernement. Nous, nous disons tout simplement qu'au niveau des politiques, ce qui est très important, c'est que, quelle que soit la personne qui va conduire notre pays dans les 94 prochaines journées qui restent avant l'élection, c'est que la date du 11 octobre 2015, la date des élections couplées législatives et présidentielles, ne soit pas touchée.
Ablassé Ouédraogo, président du parti Le FASO Autrement au Burkina.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, plusieurs officiers de l'armée ivoirienne inculpés pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Une vingtaine d'inculpations qui comprennent non seulement des ex-militaires fidèles à l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, mais aussi d'anciens rebelles partisans de l'actuel président Alassane Ouattara. Un nouveau développement dont se félicite Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme.
Les juges d'instruction qui sont en charge du dossier de la crise post-électorale au sein de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction ont inculpé ces derniers mois une vingtaine de responsables pro-FRCI, pro-Ouattara, dont des chefs importants, puisque Losseni Fofana, qui était le responsable FRCI de l'offensive pendant la conquête de l'Ouest, et notamment dans la ville de Djouékoué, a été inculpé, comme d'autres hauts responsables des FRCI de cette zone. Et ces inculpations, associées aussi à des inculpations de pro-Gbagbo, démontrent deux choses fondamentales. La première chose, c'est que les enquêtes avancent en Côte d'Ivoire et le rééquilibrage des poursuites est en cours. Les rééquilibrages, évidemment, entre la centaine de pro-Gbagbo qui sont inculpés encore à ce jour dans les dossiers de la crise post-électorale et les FRCI qui, jusqu'à maintenant, étaient une ou deux personnes qui étaient inculpées.
Florent Gel, responsable de la division Afrique à la FIDH, au micro de Claire Morin-Gibourg. Et maintenant, un coup d'œil sur les investissements de la Chine en Afrique avec Camille Gros-Didier.
La compagnie textile chinoise C&H Garment Company va installer une usine au Sénégal, signale Jeune Afrique. L'unité industrielle devrait ouvrir ses portes en 2016 à Diam Niadio. Le groupe devrait construire une unité de confection de vêtements au Sénégal pour un investissement de près de 25 millions de dollars. Les premiers containers devraient sortir de l'usine pour être expédiés vers les États-Unis et dans le reste du monde en juillet 2016. C&H Garment Company est déjà présente au Rwanda.
Le pape François continue sa tournée en Amérique latine. Sa deuxième étape aujourd'hui, la Bolivie, après l'Équateur en début de semaine. Le souverain pontife a déclaré hier que la protection de l'environnement n'était plus un choix, mais un devoir. Selon l'agence Reuters, le pape François, qui s'exprimait devant les indigènes de la forêt amazonienne de l'Équateur, a décliné les thèmes écologiques contenus dans son encyclique, publié le mois dernier. Idrissa Sédoudia.
Le pape a renouvelé son appel en faveur de la protection de la région amazonienne, un écosystème qu'il a qualifié de vital pour l'ensemble de la planète. Il a expliqué qu'il souhaitait que son encyclique puisse influencer l'issue de la réunion sur le climat prévue au mois de décembre à Paris. Au mois de septembre, le souverain pontife se rendra aux États-Unis et s'exprimera devant les Nations Unies pour délivrer un message identique. Une chose est certaine, nous ne pouvons plus tourner le dos à la réalité, tourner le dos à nos frères et nos sœurs, à notre mère, la Terre, a-t-il affirmé lors d'un discours à l'Université catholique pontificale de Quito. Reprenant plusieurs passages de son encyclique, le pape François a expliqué qu'il existait un très solide consensus scientifique sur le réchauffement climatique et sur ses causes humaines. Le choix de l'Équateur pour prononcer ce discours n'est pas anodin. Le pays est largement dépendant des revenus pétroliers et miniers, des activités qui menacent l'une des plus riches biodiversités de la planète, y compris dans les îles Galapagos.
Crise de la dette grecque, Athènes a officiellement présenté une nouvelle demande d'aide financière supplémentaire à l'Union européenne. Le premier ministre grec Alexis Tsipras se dit convaincu que son pays arrivera à conclure un accord avec les créanciers de la Grèce. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.